C'est bon. Parce que moi je m'entends pas, donc. Si, c'est bon. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. C'est cette parole qui nous libère, qui nous éduque et qui nous fait d'aller de progrès en progrès, Seigneur, dans ta connaissance. Et dans la foi, Seigneur, en Jésus-Christ, le Messie. Amen. Et je veux te remettre, Seigneur, toutes ces offrandes, Seigneur, pour que nous ayons la sagesse de les utiliser pour la gloire de ton royaume, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite une bonne année dans le Seigneur. Vous savez combien j'aime cette expression souhaitée. Vous sentez la sincérité dans mon cœur? Si, je suis sincère. Mais tous les jours, quel que soit le mois de l'année, je vous souhaite le meilleur dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, je voulais partager certaines choses. Puisqu'on est en début d'année, enfin en début d'année, normalement, vous savez que pour la Bible, est-ce que vous savez quel est le véritable jour de l'an dans la Bible? Ça commence quand le vrai jour de l'an selon le Seigneur? Ah, c'est au mois d'avril. C'est la fête de Pâques. Le premier jour du premier mois. C'est Pessard, c'est le 14 du premier mois. Alors, aussi bien les Juifs que nous, on est dans les choux, puisque nous, on a mis ça au 1er janvier, et les Juifs ont mis ça à Rosh Hashanah au mois d'octobre, au 7e mois. On va savoir pourquoi les deux religions qui sont censées avoir la Bible comme témoin sont dans les choux par rapport à ce jour-là. Alors pour ça, je reprends un peu le début. Il est dit dans Jérémie 6 au verset 16, Jérémie 6 au verset 16, il est dit quelque chose, je vais le lire, bien que ce ne soit pas le propos de ce matin. Jérémie 6, chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, non, nous n'y marcherons pas. Si j'ai un programme pour cette année, c'est de retrouver les anciens sentiers. Un programme pour moi, hein, ce n'est pas pour vous, hein. C'est mon programme. Mais enfin, je vous le partage aussi, des fois que vous vouliez suivre ce programme. Quels sont les anciens sentiers? Les anciens sentiers, il faut les prendre au plus ancien. Le plus ancien des anciens sentiers, c'est Genèse, chapitre 1. Verset 1. J'ai pas pu remonter plus loin. Désolé. Alors je vais le lire. Je me suis offert un cadeau à deux mois à moi pendant Noël. C'est la traduction œcuménique de la Bible. Parce qu'en ayant fait des cours d'hébreu, Finalement, je m'aperçois que c'est la traduction la plus fidèle au texte original. Donc, il va y avoir des petites nuances par rapport à votre Bible seconde, mais c'est la même chose. Hein. Ça veut dire la même chose. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu, ou l'esprit de Dieu, planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Est-ce que vous savez ce que c'est que la lumière? Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus. Au chapitre de Jean, et la lumière fut. C'est pas le soleil. C'est pas la lumière. La lumière, quand on parle de lumière, c'est pas la lumière. C'est une autre lumière. C'est le Messie, la première apparition que la lumière soit. Et la lumière est venue dans ce monde. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour et la ténèbre nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Il est bizarre ce texte. Le soleil n'existe pas, et il y a déjà un matin, un soir, on dit, ce soir on connaît, hein, maintenant c'est la terre qui tourne, il y a un côté qui est dans la nuit, un côté qui est dans le jour, du soleil, donc il y a le jour et la nuit. Là, il y a le jour et la nuit, mais il n'y a pas de soleil. Il y a la séparation du bien et du mal. Il y a la sanctification. Vous savez ce que c'est que la sanctification? C'est être séparé d'eux, être mis à part. Séparé d'eux, mis à part. Et Dieu, là, quand il a créé le ciel et la terre était déserte et vide, où c'était tohu vabohu, c'était le chaos. Le chaos où tout est mélangé. Tout se mélange. Le bien, le mal. Le soleil, la lumière, les ténèbres, tout est mélangé avec un gros n'importe quoi. Et Dieu sanctifie, sépare la lumière des ténèbres, jour, nuit. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux qui sépare les eaux d'avec les eaux, ciel, la mer. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux inférieures au firmament avec les eaux supérieures, il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, et il y eut un soir, il y eut un matin, un deuxième jour. Et Dieu dit que les eaux inférieures s'amassent en un seul lieu, et que le continent paraisse, il en fut ainsi. Et il appela la mer l'amas des eaux, et la terre le continent. Et Dieu vit que cela était bon. Ciel, mer, terre, sec et eau. Séparation, toujours séparation. Je sépare, je sépare, je sépare. Après, que la terre se couvre de verdure, d'arbres qui fécondent, semences, arbres fruitiers, selon qui portent leurs semences. Donc, tout ce qui est végétation. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, et rend féconde la semence selon son espèce, les arbres qui portent des fruits en eux-mêmes et semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, un troisième jour. Et là, quatrième jour, enfin, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, de la nuit. Étonnant. Qu'il y ait des luminaires pour séparer le jour et la nuit, qui servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours, et les années, qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre, il en fut ainsi. Et Dieu fit les grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, et le petit pour présider à la nuit, et les étoiles. Et Dieu les a établis dans le firmament pour illuminer la terre, et pour présider au jour et à la nuit, séparés de la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième fois, et là c'est physique, il y a un astre qui est là aussi pour séparer la lumière de la ténèbre. Le soleil reprend le dessus, enfin le dessus, il reprend ce que Dieu avait fait avec la lumière, qui est sa lumière, qui est la lumière du Messie. La création reprend. Et ce soleil, cette lune, est là pour quoi ? Pour marquer le temps, les saisons. En hébreu, c'est dit les moadim, c'est les fêtes de l'Éternel et les saintes convocations et les shabbats. Voilà à quoi servaient ces astres à partir du quatrième jour. Ainsi de suite, je continue, les animaux, hein, vous connaissez. Et la fin, c'est Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, et toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa. Il les créa, mâle et femelle, il les créa, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc., etc. Je vais m'arrêter là. Dieu créera l'homme, et c'est la première fois, je ne vais pas dire de bêtises, c'est la première fois qu'il est parlé de mâle et femelle. On a créé les animaux, hein, toutes sortes. Il les a créés selon leurs espèces. Mais l'homme, il créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Et après, il rajoutait, encore une fois, mâle et femelle, il le créa. Encore séparation. Séparation entre l'homme et la femme. Alors, pourquoi je dis ça ? Un message pour l'Église, un message pour moi. Vous le voulez, le message ? 1 Pierre 1. Première épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 15. Je dirais même au verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Programme 2022. Wow. C'est-à-dire, c'est les bonnes résolutions du début d'année. Programme 2022, soyez saints, car je suis saint. Ça veut dire quoi ? Soyez mis à part, soyez sans partage, soyez intègre dans toutes vos voies. Je me suis dit, bon ça c'est le Nouveau Testament, oui, la Nouvelle Alliance, où est-ce qu'ils ont été trouvés ça ? Parce que selon qu'il est écrit, quand il est écrit comme ça, selon qu'il est écrit, c'est bien écrit quelque part dans les Écritures. Alors je l'ai retrouvé, c'est dans le Lévitique en fait. Le Lévitique, au chapitre 19 et au verset 2. On peut même prendre au verset 1 puisque c'est tout le Lévitique 19 en fait. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu, chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous ne tournerez point vers les idoles et ne vous ferez point des dieux de fonte. C'est étonnant, là, parce que il sort trois commandements des dix commandements. Tu respecteras ton père et ta mère, tu respecteras le jour du Shabbat, et vous ne tournerez point devant les idoles, et ne vous ferez point de dieu de fonte. En fait, c'est dans le désordre, parce que le premier commandement, c'est « Tu n'auras point d'autre dieu devant ma face. » Soyez saints comme je suis saint. Effectivement, la première des choses pour être saint, c'est de ne pas être idolâtre. Ne soyez pas idolâtre. Ne vous confiez pas dans de faux dieux. Alors bon, bien sûr, vous allez me dire, ben non, nous on est à l'église, on n'est pas idolâtre. Alors je voulais vous parler de quelque chose aussi. Dans notre Bible en français, il y a croire et croire. Comme il y a amour et amour, hein. Il y a même amour, amour, amour. Ce qui n'est pas le cas en hébreu ni en grec. En hébreu, pour croire, il y a deux mots, enfin deux racines. La première s'appelle aman. Aman, c'est vraiment la foi. Ça y est, j'utilise des mots savants. La foi, qu'est-ce que c'est que la foi? Aman a donné la racine emuna. Emuna, c'est vraiment la foi. Et quand j'entends dans les milieux évangéliques tout le monde qui dit amen, ça vient de là. Que ceci soit ainsi. J'ai la foi. Ça veut dire j'ai la foi, en fait. Amen. Emuna, aman, c'est la même racine. C'est la foi. Son équivalent grec, c'est pisti ou pistoio. C'est la foi en grec. Alors, qu'est-ce que c'est que cette foi? Alors, je vais l'expliquer après. L'autre mot pour croire en hébreu, c'est batar. Alors attendez, c'est pas une grossièreté, hein, c'est même si ça se ressemble, mais c'est un peu ça aussi. Batar, ça a donné bitaron. Bitaron, c'est la croyance. C'est la croyance. Je crois. Je crois que demain il va faire beau. Mais j'ai pas la foi, parce que quand j'écoute la météo, des fois, si vous placez votre foi dans la météo, vous êtes des fois déçu ou trempé, ça dépend. Bitaron, c'est la croyance. Son équivalence en grec, c'est namizo. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire retenir, croire, posséder par coutume. Jésus a utilisé ce mot-là quand il a dit « Ne croyez pas que je sois venu porter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. » C'est « Ne croyez pas », c'est « namizo ». C'est « Ne croyez pas ça ». Et il l'a utilisé aussi « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. » Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais pour l'établir, l'accomplir complètement. Namizo, c'est je crois. Alors, quelle est la différence entre ces deux croyances? Il y en a un, la foi, ça ne s'explique pas. J'ai la foi en Jésus le Messie, je ne peux pas l'expliquer. Je sais que je sais que je sais. je ne peux pas vous convaincre de cette foi, parce que c'est un don de Dieu. Dieu me l'a donné. Si vous ne l'avez pas, conseil, demandez-la à Dieu. C'est ce que j'ai fait moi quand j'étais jeune. J'étais athée, hein, quand même. Je ne croyais plus en Dieu, j'avais été tellement déçu par tout ce que je voyais autour de moi, par le silence de Dieu aussi, quand je priais, il ne se passait rien, par la religiosité où j'avais cru, Bitaron, au Père Noël. Et puis après, je me suis dit que si le Père Noël n'existait pas, finalement, Dieu n'existait pas non plus. Mais j'avais placé cette croyance bâtard et non pas la croyance émouna. Et un jour, n'en pouvant plus, j'ai demandé à Dieu, si tu existes, donne-moi la foi. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne vais pas vous faire le cinéma en disant, ouais, j'ai vu le soir même. Alors c'était le soir, si on ne peut pas appeler ça une prière, puisque je ne croyais pas en Dieu. Mais j'ai dit, si tu existes vraiment, donne-moi la foi. Je n'ai pas vu d'ange, je n'ai pas vu le Seigneur au pied de mon lit. Je n'ai pas vu le ciel ouvert avec les anges qui montent sur une échelle et qui descendent. Je n'ai rien vu du tout. Je me suis couché, je n'y croyais pas, je me suis réveillé le matin. J'y croyais. Je savais que je savais que je savais que Dieu existait. C'est un don de Dieu. On ne peut même pas dire que c'est grâce à moi. J'ai juste demandé à Dieu, donne-moi la foi. Et la foi, elle est basée sur quoi la foi? Alors je vais vous faire peut-être une petite définition. La foi vient de la vérité, de la parole entière, quand je parle de la parole de Dieu, entière, appliquée et vérifiée. Quand je dis appliquée, c'est mise en pratique et vérifiée comme bonne. La foi est purement spirituelle et ne peut être expliquée. Je suis désolé si vous pensiez ce que c'était que la foi, elle est purement spirituelle. La foi, c'est par la foi que nous sommes sauvés, par grâce, au moyen de la foi. Mais sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu peux essayer de croire de toutes tes forces. C'est le chant qui disait pas besoin de latin, tu sais, foncer, je ne sais plus quoi. Enfin, tu peux essayer de trépigner sur place avec ta croyance. Voilà, tu peux chercher. Si Dieu. Alors, le problème de ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui croient qu'ils ont la foi, mais ils sont au niveau de Namizo. Il y en a qui sont chrétiens parce que leurs parents étaient chrétiens, par coutume. J'aurais serais né en Algérie, j'aurais été musulman. Là, je suis né en France, je suis chrétien. Il y en a qui sont chrétiens, qui croient en un Jésus, le Jésus qu'on leur a présenté. Et là, cette croyance-là vient de la façon avec laquelle on comprend la parole et de tout ce qu'on y ajoute et on y retranche. C'est un mélange de pensée, de philosophie et de spirituel. Là, je suis méchant. Hein. Vient de ce qu'on y ajoute et ce qu'on y retranche. C'est pour ça que l'Apocalypse, il est écrit, attention, n'ajoutez rien à ce livre. Ne retranchez rien à ce livre. Qu'est-ce qu'on y ajoute et qu'est-ce qu'on y retranche? À la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on a ajouté à la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on a retranché à la parole de Dieu? On y a ajouté nos traditions. On y a retranché l'essence même du Messie. Attention à comment on lit la parole de Dieu. Je vous l'ai déjà exprimé plusieurs fois. Hein. On a tous nos vaches, je vais dire ça, nos vaches sacrées. Des doctrines toutes faites. Pourquoi? C'est pas un mal, hein, je ne l'ai pas fait exprès, c'est mon pasteur qui me l'a dit. Mais le pasteur qui me l'a dit, il ne l'a pas fait exprès, il l'a eu parce que son pasteur lui a dit. Et son pasteur lui a dit parce que son curé lui a dit. Et son curé lui a dit parce que l'évêque lui a dit. Et l'évêque lui a dit parce que... Voilà. On peut remonter comme ça jusqu'au père de l'Église. Je ne vous rappellerai pas ce qui s'est passé en 400. La grande scission, la grande coupure, où l'Église s'est sentie tellement orgueilleuse qu'elle ne voulait plus rien savoir de ses racines, le judaïsme, enfin le judaïsme non, Yeshua, le Messie. Je ne parle pas du judaïsme, parce que le judaïsme actuel, comme je vous l'ai dit, il est dans les choux. Comme ça, tout le monde est à balle au centre. Il n'y a pas une religion plus qu'une autre. Mais les religions, et je parle de religion, c'est de là, c'est du bitaron, c'est du bâtard. C'est du namizo, si vous voulez parler en grec. Mais c'est loin de la emouna, loin de la foi. Dieu veut séparer la lumière de la ténèbre. C'est comme ça, c'est féminin en hébreu. Dieu veut séparer la lumière des ténèbres. Que vous le vouliez ou non, il existe deux mondes. Le monde matériel et le monde spirituel. Ça, c'est immuable. Il a séparé la lumière des ténèbres. La foi, même si nous sommes ici, elle est là-haut, dans le monde, alors je dis là-haut, dans le monde spirituel, dans le ciel, comme on dit, mais dans le monde spirituel. Notre foi touche le monde spirituel. Notre croyance, bâtard, peut, par superstition des fois, aller dans le monde spirituel, mais pas par les bonnes forces. Les sorciers, ils sont bitaronnes. Ils peuvent influencer le monde spirituel. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a une chose qui est claire, c'est que nous, chrétiens, nés de nouveau, si tout au moins vous l'êtes, si vous avez eu la émouna, la foi en Jésus, quand il est marqué que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est pas bitaron, c'est pistoio. En grec, c'est la foi que je sais que Jésus est le Messie. Imaginez, enfin, si vous avez vu ceux qui ont pu voir la série Chosen, un mec qui se pointe, toi, suis-moi. T'es sûr? Suis-moi. Pourquoi ils les ont suivis, quoi? Parce qu'ils savaient que c'était le Messie. Alors bien sûr, il a donné des signes, Jésus, il a fait des miracles. Il a eu des paroles de connaissance. Nathanaël, avant que tu me connaisses, je t'ai vu sous le figuier. Ouais, ben, rien que ça, Nathanaël y croit. Mais il croit, Emouna, je crois que c'est le Messie. Il y en avait un qui était un peu plus bâtard, c'était Thomas. Lui, il aimait bien voir avant de croire. Et Thomas, bah, il a eu la Emouna, mais il a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Parce que là, c'est la vraie foi. La vraie foi que chez Jésus est le Messie. Nous sommes, où sommes-nous actuellement? Dans Éphésiens 2,6, il est écrit quoi? Prendre Éphésiens 2,6. Alors, je vais peut-être prendre un petit peu avant. C'est tellement important, Éphésiens. On va reprendre Éphésiens 2,1 même. Vous étiez morts par vos enfances et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, nous étions par nature enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes où? Nous sommes, même si nous sommes là, notre corps est là. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait planer à 2 mètres du sol, hein, c'est pas ça. Il faut bien. C'est d'avoir l'esprit dans les lieux célestes et les pieds bien ancrés sur terre. D'ailleurs, revenir à la série Chosen, j'en ai vu des films sur Jésus. Mais à chaque fois, c'est un Jésus qui plane à 2 mètres de haut, quoi, qui est le mec complètement mystique. Et là, j'ai vu un Jésus complètement sur terre, complètement humain, mais qui faisait ce que son père lui disait, et tout ce qu'il faisait était spirituel. C'est ce qu'on doit être aussi. On doit être spirituel, mais à la fois complètement humain, dans le sens où on n'est pas détaché des autres, on n'est pas... Effectivement, on est mis à part, hein. On ne va pas participer à tout ce qui est mauvais chez les autres. Mais on doit être là, on doit être... Je vous ai envoyé au milieu du monde. On doit être au milieu du monde. Bien sûr qu'on ne doit pas participer aux œuvres des ténèbres, on ne doit pas participer à tout ce qui est mauvais, mais on est là. Alors, le programme de cette année, c'est quoi? Soyez saints comme je suis saint. J'en ai un autre, Matthieu 5, 48. Celui-là, il est bien, celui-là. Cinq quarante-huit, c'est quoi? Je descends. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Wow. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est bon là? On arrête là? Il n'y a plus personne qui dit Amen. Ah, quand même. Il y en a qui disent ça, c'est pas possible. Bah, si Jésus dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, c'est que ça doit être parfaitement possible. Je vais pas vous parler, je voulais vous en parler, quoique si, j'ai un peu de temps. Lévitique 19, 19. Et je reviens à la loi. Je vais me demander pourquoi je dis ça. Gardez mes lois, n'accouple pas deux espèces différentes de ton bétail, ne sème pas dans ton champ deux semences différentes. Ne porte pas de vêtements en étoffe hybride tissés de deux fibres différentes. Si je remets ça dans le contexte du Lévitique, je remonte un tout petit peu au verset 15. Ne commettez pas d'injustice dans les jugements, n'avantage pas le faible et ne favorise pas le grand, mais juge avec justice ton compatriote. Oui, c'est ça. Ne te montre pas calomniateur de ta parenté et ne porte pas une accusation qui fasse verser le sang de ton prochain. C'est moi le Seigneur. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas, ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi le Seigneur. C'est juste après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous avez lu le texte avant avec moi, vous reconnaissez l'épître de Jean. Tu aimeras ton frère. Celui qui n'aime pas son frère n'a pas vu Dieu. Tu n'apporteras pas de faux témoignages non plus. Tu ne calomnieras pas. Tu ne porteras pas d'accusation. Celui qui calomnie, celui qui médit, celui qui porte des accusations, il a un nom en hébreu aussi. C'est le Shatan, le Satan. Satan, ce n'est pas le diable. On l'appelle comme ça, c'est son surnom. C'est le calomniateur. Le diable s'appelait Lucifer. Mais sa particularité, c'est le chatan, c'est celui qui calomnie, celui qui médit, celui qui accuse faussement, ou même des fois qui accuse vraiment. Parce que des fois, on n'est pas clean non plus, mais on se fait accuser. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère. Mais ça ne veut pas dire non plus que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qu'on s'aime. Nous sommes un dans un lien d'amour. Mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote ou ton frère pour te charger d'un péché à son égard. Tu dois aussi, si ton frère a péché, va et reprends-le. C'est pas dire je l'aime, je dis rien parce que je l'aime et le Seigneur va lui parler. Donc, faut toujours avoir un équilibre. N'accouple pas deux espèces différentes de ton bétail. Pourquoi ? Si tu accouples une jument et un âne, ça fait quoi ? Hein ? Non, ça fait pas un poney. Ça fait un mulet. Si tu accouples un cheval et une ânesse, ça fait quoi ? Ça fait aussi un mulet ou une mule. Particularité du mulet et de la mule, ça fait quoi ? Elles sont stériles. Un mulet, une mule sont stériles, ne peuvent plus se reproduire. C'est pareil dans la vie spirituelle. Si tu fais mélange. Là, bon, c'est un accouplement, mais tu fais mélange, tu engendres une stérilité. Les vêtements, on va dire, bah, là, on est mal. Parce que maintenant, tout est 60% coton et 30% polyester. Mais polyester, c'est pas dans la Bible. Les vêtements, pourquoi on ne devait pas avoir des fibres différentes sur nos vêtements? Ah! À l'époque, il n'y avait pas de plastique. Les vêtements, ils étaient en laine et en coton, enfin pas en coton, même en lin. Coton, je ne sais pas si ça existait vraiment en terre d'Israël. Coton, peut-être, je ne sais pas. Le lin et le coton, c'est quoi? C'est végétal. La laine, c'est quoi? C'est animal. Tu ne mélangeras pas l'herbe et l'animal. Ça veut dire quoi? La loi, elle est bien faite. Ça veut dire que tu ne mélangeras pas le spirituel et l'animal aussi. Vous savez que nous, on est quand même animal, enfin on a une partie de nous. On a été créé quasiment le même jour que les animaux, sauf qu'on a été créé à l'image de Dieu. Par contre, ce que Dieu demande à l'homme, c'est d'être plus à son image que d'être bestial. C'est possible hein, d'être bestial. Hein. Vous voyez autour de vous, c'est possible. On peut être animal. D'ailleurs, on voit que l'homme tend plus vers l'animal maintenant que vers le spirituel. Ne mélangez pas l'animal du spirituel. Les champs. Non, ça ne sera pas deux semences différentes dans le champ. Ça vous rappelle une parabole. Livrer le blé. Dieu a semé du blé et l'ennemi, le Satan, a semé livré. Pas de mélange. Séparage. 2 Corinthiens 6, verset 15. Vous allez me dire, ça c'est 2 Corinthiens 6, verset 15. Verset 14 même. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sanctification. Alors bon, bien sûr, ce passage-là, il est pris souvent pour les mariages, etc. Mais il n'y a pas que le mariage, hein. Il peut y avoir aussi les alliances. Quand vous créez une société, vous créez une entreprise, faites attention avec qui vous la créez. Parce qu'il ne peut... Il y a des choses, des fois, on dit, bah ouais, ça peut se faire, on peut y aller. Mais non. Il n'y a aucun, comment dire, compromis à faire entre le temple de Dieu et les idoles. Pour en revenir à ce que je disais par rapport à l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Église, à partir de l'an 300, l'an 200, n'a été qu'un gros compromis entre Dieu et les idoles. Et ça, c'est un autre sujet. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors que devons-nous faire? comme Philippiens, donc comme Paul le dit dans Philippiens 2:12, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Oula. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ah mince. Il faut travailler. Pourtant, il est écrit dans la Bible, rentrez dans le repos. Non, c'est pas écrit ça aussi? Efforcez-vous de rentrer dans le repos, et puis après, il nous dit de travailler. Le salut est une marche. La foi est un don de Dieu, la grâce est un don de Dieu. Mais ce n'est pas un don que je garde comme ça, comme une collection de timbres, que j'enferme dans un livre et que je ressortirai au dernier jour. La grâce, c'est une puissance surnaturelle pour accomplir la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est-à-dire déjà ce que le peuple d'Israël n'a pas su faire parce qu'il n'avait pas la puissance pour. Je mettrai ma loi dans leur cœur, je serai leur Dieu, seront mon peuple. Là, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Que la force soit avec toi. Mais si tu n'utilises pas cette puissance et que tu vis n'importe comment, ne crois pas être sauvé. Ne crois pas être sauvé. Il y en a qui disent qu'il y a des doctrines qui circulent dans l'Église. Toute grâce, toute puissance, c'est de dire bah, je suis sauvé une fois pour toutes. Youhou! Keep cool! Si le chrétien se comporte comme un païen, où est la lumière du monde déjà? C'est pas ce qui est écrit, c'est ne faites pas avec le monde un attelage disparate. Ne mélangez pas le temple de Dieu et les idoles. Travailler à votre salut, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'il faut que je me mortifie, que je me sanctifie, que je... Non, non plus. Que je me flagelle, que je marche sur les genoux, que je fasse je sais pas combien de prières, que je passe la nuit dans le jeûne ou toute la semaine dans le jeûne, c'est pas ça non plus. Attention, on peut le faire, hein. Pas interdit, mais pas pour être sauvé. Comme la loi ne sauve pas non plus. Une seule chose sauve, c'est Jésus, le sacrifice de Jésus. Il nous a sauvés. Mais il faut marcher avec. Si Jésus te dit, suis-moi, ouais Seigneur, ouais, je suis super content, le Seigneur il m'a dit, je le suis. Mais je ne suis pas. Tu passes à côté, quoi. Ça veut dire quoi, travailler à votre salut? Vraiment. Qu'est-ce que vous avez fait le jour de votre baptême? Comment? Ouais, vous avez... On a rendu témoignage, ouais, de ce que Jésus avait fait pour nous. Mais c'est quoi le baptême? La mort de notre ancienne vie et la résurrection à une vie nouvelle. Mais ça veut dire une chose, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. J'ai écrit, hein, Pierre en parle, certains l'ont perdu. Une bonne conscience envers Dieu. Travaillez à votre salut. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous de souvenir votre jour de baptême, où je m'engage devant le Seigneur à ne plus marcher comme je marchais avant. Je m'engage à ne plus pécher. Dire c'est de l'engagement. Qui l'a tenu cet engagement? Moi non. Moi non, je vous le dis, je ne l'ai pas tenu, toujours. Mais pour ceux qui ont péché, j'ai un avocat auprès du Père qui est fidèle et juste pour le pardonner. Il y a eu des moments où il y a eu des fautes. C'est pas ça non plus que je dis, c'est pas de dire ça y est, je suis baptisé, maintenant dès que t'es péché, pouf, t'es perdu. Non, c'est pas ça non plus. c'est travailler à votre salut, c'est toujours suivre cet engagement que vous avez eu le jour de votre baptême, à collaborer avec le Saint-Esprit que vous avez reçu. Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et si vous êtes convaincu de péché, de justice et de jugement, ce n'est pas pour vous condamner en disant « Oh, mon Dieu, je suis perdu. » Non, c'est « Seigneur, je reconnais que j'ai péché, mais j'ai un avocat auprès du Père. » Et ma sanctification, elle vient de Jésus. Et uniquement de lui, qui a été fait pour nous, rédemption, sagesse, justice et sanctification. Sainteté. Attention de ne pas nous leurrer dans des croyances. Parce que ça, la croyance de la grâce toute puissance, d'ailleurs déjà Paul en parlait déjà, parce que nous sommes sous la grâce, on a continué à pécher. Il le disait déjà. Il y avait des gens qui avaient déjà trouvé l'astuce. Attention à cette fausse croyance. Votre salut est à venir, votre salut est conditionné quand même, quelque part. Dans 1 Pierre 1,9, vous pouvez le lire. On va le lire, parce que c'est important. 1 Pierre 1,9. D'ailleurs, on va même le lire 1,8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Ah tiens donc, j'en ai déjà parlé de ça. Donc c'est plus de la croyance, là, c'est de la foi. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Parce que qui vous dit que Jésus il a existé déjà? Il y en a plein qui disent qu'il n'a pas existé, hein, que c'est que de l'invention de curé. Hein. Il y en a qui le disent. Mais nous, on sait que Jésus existe. Parce qu'on a la foi. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et qui croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et c'est pour ça que je reviens au verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Je rejoins ce que je disais au début. Souvenez-vous du jour de votre baptême, l'engagement d'une bonne conscience. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez avant votre baptême, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint, c'est-à-dire soyez séparé dans toute votre conduite, soyez entier dans toute votre conduite. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas continuer à vivre votre vie ancienne en ayant Jésus-Christ en surplus. Beaucoup de chrétiens, je le vois autour de moi, beaucoup de chrétiens, Jésus est un moyen. Jésus-Christ est un moyen. Et beaucoup déjà dès l'époque de Jésus. Hein. Jésus, il disait, vous me suivez parce que je vous ai donné du pain, je vous ai donné des poissons. Je vous ai donné du vin à Cana, mais vous ne me suivez, vous ne croyez pas en moi. Quoi. Vous n'avez pas la foi. Je suis un moyen, je suis le tiroir caisse, je suis le distributeur automatique. Où il suffit de mettre une pièce, enfin c'est gratos en plus. Il suffit de prier de toutes ses forces en fronçant les sourcils pour obtenir quelque chose de Dieu. Mais ça, c'est une croyance aussi. Et c'est une croyance néfaste, parce que le jour où Dieu vous obtenez rien, et souvent le cas d'ailleurs, on n'obtient rien, parce que vous priez mal, vous prier pour vous, pour votre convoitise personnelle, qui n'est pas du tout selon la volonté de Dieu. Et bien la première chose, c'est les disciples, on l'a vu, hein, il y en a plein qui ont quitté Jésus, parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient de Jésus, quoi. Ils attendaient. Et hélas, il y en a plein qui quittent, soi-disant la foi, mais est-ce qu'ils l'ont vraiment eu dès le début ? Qui quittent les églises, parce que les églises, elles ne sont pas bien, elles ne leur ont pas donné ce qu'ils voulaient. Non, Dieu, Jésus-Christ, ce n'est pas un moyen. Jésus-Christ est le but. Jésus-Christ, c'est nous qui sommes un moyen pour lui. C'est le contraire. Paul disait, nous sommes esclaves. C'est un bien grand mot. Nous sommes esclaves de Christ. Et lui-même l'a été. Nous sommes esclaves, nous sommes serviteurs de Christ. Les petits Français là, qui aiment bien leur liberté, ah non, moi je suis libre, je veux pas, il y a ceci, il y a gna, parce que j'aime pas qu'on m'impose les choses. Vous êtes esclaves de Christ. Je suis esclave de Christ. Si vous ne voulez pas l'être, vous avez le droit. Hein. Suis-moi, ou pas. Chacun selon la mesure de foi qui lui est départie. Bien sûr, on n'a pas tous la même foi. Il y a des grandes fois, il y en a qui ont des petites fois. Ça, c'est dans Romains 12. Selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Mesure de foi. Mais c'est de la foi, c'est spirituel, c'est pas matériel, c'est pas qu'est-ce que je pourrais tirer davantage en croyant en Jésus. Alors, l'avantage est grand, l'avantage est énorme. Nous sommes sauvés de la colère de Dieu, nous sommes sauvés, nous sommes de nouvelle foi greffés sur l'olivier d'Israël, sur les promesses, sur la loi, sur la Torah, sur le Messie. Qui est, qui était et qui vient. Ça, c'est mieux que Seigneur fait ceci, Seigneur fait cela, fait que je n'ai rien, que je ceci. Même la guérison. Guérison, c'est bien la guérison. Mais tous ceux que Jésus a guéris, ils sont tous morts. Tous ceux que Jésus a ressuscités, ils sont tous morts. Si la guérison est une fin en soi, non, la libération est une fin en soi. Et ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas été guéri et qui est mort que Dieu ne l'a pas libéré. Vaut mieux quelqu'un qui meurt en Christ, en sachant par la foi qui il est et à qui il est assis dans les lieux célestes déjà, de toute façon, donc qu'il laisse son corps, qu'on laisse notre corps, puisqu'on est déjà assis là-haut. Voilà, travaillez à votre salut, soyez saints comme l'Éternel Dieu est saint, et soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et le peuple dit Amen. Amen. Et Mouna, ayez la foi en Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te louer parce que oui, c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire, c'est toi qui crée en nous, Seigneur, toute. Oui, nous n'avons rien à nous, Seigneur. Tout est à toi, Seigneur. La foi, c'est toi qui nous l'as donnée. Et nous voulons marcher, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la force de marcher avec toi, Seigneur. La force de suivre tes commandements, Seigneur, de suivre ce que tu as pour nous, Seigneur. Ce que tu as en réserve, que tu as les œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur. Non pas nos œuvres à nous, Seigneur, non pas nos pensées obscurcies, mais que toi, tu as des œuvres pour chacun d'entre nous, Seigneur. Oui, Seigneur, merci de nous garder dans ta loi qui est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, Seigneur, et ton prochain comme toi-même. » Mais donne-nous aussi, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu as à nous dire, Seigneur, cette année. Ce que tu as à nous dire, oui, Seigneur, nous voulons écouter, Seigneur, et entendre ce que tu as à nous dire. Dans le nom de Jésus le Messie, Seigneur. Amen.